chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour, bienvenue à ce balado Savoir et Stéthoscope. Je m'appelle Annie-Laurence Duval-Martin et je suis conseillère cadre clinicienne à la direction des soins infirmiers. Je suis accompagnée de
Stacy Corriveau, conseillère cadre clinicienne à la direction des soins infirmiers, et nous sommes vos animatrices. Annie-Laurence, qu'est-ce que c'est Savoir et Stéthoscope?
Donc, par le balado Savoir et Stéthoscope, nous visons à démystifier ce que fait une DSI au quotidien. On vise à faire rayonner la pratique infirmière dans notre CIUS et à discuter de la réalité de la pratique clinique avec plusieurs acteurs variés. On a choisi ce médium parce que ça nous permet d'aller rejoindre tous les professionnels en soins, peu importe où vous travaillez, dans quel milieu ou même sur quel corps de travail. Dis-moi, Stacy, comment va être divisé notre balado?
Donc, à chaque épisode, on va avoir un invité qui va venir nous parler de son sujet de prédilection. On a aussi trois segments dans notre balado. Donc, le premier segment, qui est celui de « Quoi de neuf à la DSI », on va s'intéresser à qu'est-ce qui se fait en ce moment à la direction des soins infirmiers. Deuxièmement, on a le segment « Coup de cœur de la DSI ». Donc, on veut souligner des initiatives locales dans nos établissements qui ont un rapport à la pratique en soins infirmiers. Et finalement, les segments « Ai-je le droit ?» On s'est tous déjà demandé « Est-ce que j'ai le droit, moi, de faire ça comme infirmière, comme CP, externe ?» Et c'est dans ces segments-là qu'on va répondre à cette question-là.
Merci, Stacy. Sans plus tarder, on accueille notre invitée du jour, Sophie Martin. Salut, Sophie.
Salut.
Est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de ce que tu fais au quotidien dans ton rôle?
Certainement. Donc, je suis conseillère en soins à l'Organisation du travail et des soins infirmiers, donc à la Direction des soins infirmiers. Puis, je suis impliquée aussi dans l'accueil des infirmières diplômées hors Canada. Je participe à plusieurs mandats puis projets. Puis aussi, je travaille en collaboration donc avec les chefs hiérarchiques de l'orientation et du développement. On encadre la relève en soins infirmiers, les externes, les CPA, les CPI, mais aussi les infirmières et infirmières auxiliaires qui sont équipes volantes. Puis, les préposés aux bénéficiaires sur la liste de rappel. Je suis une personne ressource là, pour accompagner la relève en soins infirmiers en lien avec des questionnements pour le milieu de répartition, les balises d'orientation, mais aussi les objectifs là, de développement professionnel.
Hey, merci Sophie. Savoir et Stéthoscope, on commence ça maintenant.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Quoi de neuf aujourd'hui à la DSI, Sophie?
Plusieurs projets et innovations sont en cours en lien avec l'accueil des infirmières diplômées hors Canada, que nous nommerons IDHC. Avec la création d'un nouveau poste de conseillère cadre clinique dédié à l'élaboration des différentes trajectoires des infirmières diplômées hors Canada, nous avons accueilli Catherine Houle dans notre équipe de l'Organisation du travail et des soins infirmiers, qui est dévouée et apporte de belles innovations dans le dossier du recrutement international en soins infirmiers. Depuis la dernière année, en février 2023, et en juin 2023, nous avons accueilli deux cohortes organisées par le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, d'infirmières diplômées hors Canada, originaires du Cameroun, Maroc, du Congo et de la Côte d'Ivoire, qui ont réalisé leur attestation d'études collégiales au cégep de Granby. Ils intègrent graduellement nos milieux de soins de Haute-Yamaska depuis novembre 2023 comme candidats à l'exercice de la profession infirmière, donc CPI. Je salue l'accueil et le soutien qui est offert par les équipes de soins, les tuteurs et tutrices, à ces ressources issues de l'international. Des entrevues sont actuellement en cours en vue de l'accueil d'une troisième cohorte d'infirmières diplômées hors Canada qui feront l'AEC au cégep de Granby et qui proviennent de la Tunisie, de l'Algérie, du Pérou et d'Haïti. Nous avons également la chance d'accueillir des infirmières françaises qui viennent effectuer le stage d'ARM, donc d'arrangement de reconnaissance mutuelle entre le Québec et la France, et qui nous permet d'accueillir ces infirmières cliniciennes dans plusieurs secteurs de soins de la courte et de la longue durée, et maintenant dans tous les RLS de notre CIUS. Nous accueillons également des infirmières de différentes nationalités, dont la Belgique, l'Algérie et la Colombie, qui font des stages d'intégration dans nos milieux de soins et qui deviendront CPI. Un point clé à retenir serait d'être attentif à l'unicité de chacune de ces personnes et de leur parcours professionnel, de valider nos perceptions et notre compréhension de l'autre et avec l'autre. Je nous encourage à voir la richesse du partage et des échanges avec ces professionnels issus de l'international. Nous pouvons saluer le courage de ces hommes et de ces femmes qui décident de vivre une aventure immigration seule ou en famille pour venir s'intégrer à la pratique infirmière au Québec.
C'est vraiment intéressant.
J'ai pas de mots tellement que je trouve ça beau.
Merci vraiment d'être venu nous parler de tout ça. On enchaîne avec le prochain sujet qui est l'accueil de la relève en général. Là, je pense que les IDHC font partie de notre relève, mais de façon plus générale, comment est-ce qu'on les accueille?
Toi, ni Laurence, ça ressemblait à quoi ta première journée dans la profession infirmière?
Moi, j'ai commencé comme CPI sur une unité de soins intensifs. Donc, ma première journée comme CPI, c'était vraiment une journée typique de soins intensifs. J'avais un patient intubé. J'étais avec mon tuteur. Puis mon tuteur a pris le temps de me montrer tout ce que je devais regarder chez une patiente intubée. Puis je me souviens de cette journée-là, là, comme si c'était hier. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre des soins intensifs. Toi, Sophie, ça ressemblait à quoi?
J'ai commencé sur l'unité de maternité. Puis, étant donné que c'était un retour aux études, c'est une nouvelle profession, bien, j'avais des fois un sentiment d'imposteur. Puis, j'avais vraiment peur. Je me mettais énormément de stress. Si, par exemple, j'arrivais dans une situation puis je ne savais pas quoi faire, ça me faisait vraiment très peur. Mais j'ai compris que c'était vraiment un travail d'équipe, qu'il y avait plein de professionnels en collaboration avec moi puis que je pouvais compter sur plein de personnes qui pouvaient me venir en aide là, si des fois, ça arrivait une situation où je ne savais tout simplement pas quoi faire.
Puis toi, Stacy?
Moi, j'ai fait mon externat en soins palliatifs. J'avais tellement hâte. En fait, je ne savais pas que j'allais là. Je pensais que je m'en allais en médecine. Et la première journée, je pense que c'est le fruit du hasard. J'ai été jumelée avec une infirmière qui était aux soins palliatifs à ce moment-là, à la Haute-Yamaska. Et j'ai tellement aimé ma journée que j'ai demandé à mon ASI si je pouvais faire l'été au complet dans l'aile des soins palliatifs. Et ça a été accepté. Je me suis vraiment découvert une passion que je ne savais pas que j'avais. Même que j'aurais voulu continuer mon CPI-là, j'ai été CPI en maternité par la suite. Mais moi, ça a vraiment été une découverte, mon expérience en externat. Je ne savais pas que j'aimais autant les soins palliatifs.
Pour faire le tour de la question, on est allé rencontrer des anciennes CPI-CPIA de la relève et des CPI qui arrivent présentement. Puis on est allé voir ce que la relève pense en lien avec leur arrivée.
Moi, ma principale crainte, c'est de ne pas être bien accueillie sur mon milieu. Pour moi, l'équipe, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qui me motive dans ma journée à rentrer au travail. Donc, si je vois que l'équipe n'est pas réceptive à répondre à mes questions, si je sens qu'il y en a qui sont plus hésitants à avoir des CPI, c'est sûr que ça va venir me chercher un petit peu à l'intérieur. Puis, je vais me sentir moins à l'aise de travailler.
Quand je rencontre la relève en soins infirmiers, soit en maison d'enseignement, ou lors de rencontres d'accueil, une des grandes craintes qui est verbalisée est au niveau de l'accueil et de l'intégration dans leur milieu. La peur de ne pas savoir où aller, d'avoir de la misère à s'intégrer dans l'équipe malgré leur volonté de le faire. Quand je parle à des recrues à la fin d'été, plusieurs petits gestes ont fait une grande différence dans l'image positive qu'ils gardent de leur été. Des gestes aussi simples que de se faire saluer par les personnes dans l'équipe lors de leur première journée, de se faire inclure dans les discussions dans la salle de pause, que les membres de l'équipe viennent se présenter et offrir leur soutien. Ça peut être de lui dire de venir vous voir si elle a besoin d'aide. Par exemple, si on réalise que notre recrue est en train de chercher quelque chose sur l'unité, simplement lui demander si on peut l'aider et prendre 2 minutes de notre temps pour l'accompagner fait une immense différence dans le sentiment d'être pris en considération et de se sentir valorisé. La rétroaction est aussi une action déterminante pour aider la relève à se sentir bien. Plusieurs recrues nomment aussi à quel point elles ont apprécié se faire questionner en mettant au défi leurs connaissances et leur raisonnement clinique lors du soutien qu'elles reçoivent. Elles ne veulent pas nécessairement se faire dire quoi faire, mais avoir un espace pour apprendre avec les infirmières et infirmières auxiliaires dans ce qu'on appelle l'approche réflexive. Quand on commence dans la profession, et c'était aussi mon cas à mes débuts, on a l'impression d'avoir 1000 questions à poser. C'est normal d'avoir des questions. Et est-ce que ce n'est pas justement rassurant d'être témoin d'une novice qui fait preuve de curiosité, d'implication et qui ose poser des questions? C'est même rassurant de pouvoir faire confiance en notre recrue en soins infirmiers qui pourra nommer ses enjeux et qui saura faire preuve d'autocritique en nommant ses limites et en demandant le soutien nécessaire pour offrir des soins sécuritaires. On a besoin de relève dans nos milieux de soins, il est important d'en prendre soin puis de mettre en place des petites actions quotidiennes qui font une grande différence dans la rétention.
Toi, Laurence, est-ce qu'il y a des petits gestes au quotidien qui ont fait en sorte que tu t'es sentie mieux accueillie, plus préparée?
Certainement. Je me souviens, moi, chaque membre de l'équipe de soir était venu se présenter. Puis, à la fin de leur présentation, de façon intuitive, j'ai envie de dire, ils ont tous rajouté. Puis, si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à venir me voir. Puis, j'avais l'ASI aussi qui disait, je veux que tu viennes me poser toutes tes questions, même si tu les trouves niaiseuses, c'est certain qu'elles ne sont pas niaiseuses. Fait que viens me les poser, ça va me faire plaisir de répondre. Aussi, on a demandé à une externe en soins infirmiers si elle avait des appréhensions.
De ne pas être à la hauteur des attentes du milieu. Là. C'est que, un peu qu'il oublie là, qu'on est étudiant puis qu'on apprend.
J'ai vécu cette crainte de ne pas être à la hauteur et ce besoin de performance nous suit toute la carrière, selon moi. Patricia Bénard, c'est une théoricienne en soins infirmiers puis elle est connue pour son livre de Novice à expert, dans lequel elle parle de sa théorie, selon laquelle, comme infirmière, nous évoluons selon différents stades de développement. il est primordial de prendre en considération le stade de développement dans lequel se situe notre collègue pour pouvoir définir nos attentes et l'approche de soutien et d'accompagnement à prioriser. Notre élève en soins infirmiers est novice, puis débutante. Il faudra de l'exposition clinique et de l'expérience pour graduellement, durant les années de pratique dans la profession, passer au stade de compétente, performante et experte, qui font agir d'instinct puis selon leur intuition professionnelle. Les membres de notre élève ont une base de connaissances théoriques et des compétences procédurales acquises durant leur formation académique. C'est la pratique concrète qui va leur permettre de développer graduellement leur jugement clinique, leur leadership infirmier et leur autonomie professionnelle. Ça peut prendre des mois et des années avant d'acquérir un sentiment de compétence selon le degré d'exposition à différentes situations de soins complexes. On a tous commencé quelque part et même si maintenant on est des professionnelles compétentes, performantes ou expertes, il faut arriver à se remettre dans la peau des novices pour ajuster notre approche d'accompagnement et de soutien. C'est le même processus qui se produit quand on commence un nouveau poste ou un nouveau milieu. On redevient novice. Mais une infirmière d'expérience va retrouver ses repères plus rapidement que quelqu'un qui commence dans la profession. Pour ce qui est des externes, des CPA et des CPI, il y a des balises d'encadrement qui existent et qui se basent sur les exigences des ordres professionnels de l'OIQ et de l'OIAC. Ce sont les directives pour s'assurer que nos attentes et que notre approche dans l'orientation et l'accompagnement sont cohérentes avec les attentes en lien avec le type d'emploi et le niveau de développement. Par exemple, une externe en soins infirmiers doit être en tout temps en jumelage avec une infirmière et il est en surplus d'équipe. Il n'a pas encore terminé sa formation. Une CPI doit toujours avoir une infirmière disponible pour lui apporter du soutien. Elle ne peut pas prendre à sa charge, par exemple, un usager dont l'état est instable. Toutes les activités autorisées selon le type d'emploi sont disponibles sur les sites Internet des ordres professionnels.
C'est tellement intéressant. Les externes en soins infirmiers sont tellement utiles avec nous là, pendant les périodes qu'elles sont disponibles. Toi, Stacy, c'était quoi ton expérience comme externe en soins infirmiers?
Bien, en fait, quand j'étais externe en soins infirmiers, je pense que ce qui a fait vraiment la différence, c'est le fait qu'on a respecté ma demande de vouloir demeurer aux soins palliatifs. On a vraiment écouté ma demande, ma préférence, puis elle a été prise en considération. Donc, déjà, à mes tout débuts, je sentais que je faisais partie de l'équipe et que j'étais considérée pour la personne que j'étais. Donc, ça m'a vraiment aidée. Il y a quelque chose que tu as dit, Sophie, qui m'a accrochée parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris quand même récemment. Bon, récemment, c'est assez relatif, là, mais dans les dernières années, que c'est pas parce que tu es compétente ou performante dans un milieu que tu vas pas recommencer un peu là, au stade de novice parce que moi, ça m'est arrivé peut-être voilà un an quand je suis devenue conseillère en soins infirmiers. Tu parlais tantôt de, bien, on vit avec ça un peu toute notre carrière, de l'impression, est-ce que je suis à la hauteur? Bien, moi, j'ai vécu ça et je ne savais pas que ça allait faire ça parce que je ne connaissais pas encore les stades de Benner. Je me suis beaucoup questionnée à savoir, est-ce que c'est normal? J'étais une référence dans mon milieu avant à l'urgence et là, maintenant, je suis conseillère en soins infirmiers et j'ai l'impression que j'ai plus de compétences, que je dois tout réapprendre. Donc, c'est quelque chose qui doit arriver quand même souvent. Là.
Puis pensez aux infirmières diplômées hors Canada. Elles changent de pays, elles changent de milieu. Elles passent à travers ces stades de Benner-là également, là, de recommencer à zéro, mais vont quand même retrouver des repères là, de leur pratique antérieure plus rapidement.
C'est vraiment intéressant d'avoir conscience aussi de ces théories-là. Ça vient autant nous légitimiser nous-mêmes de dire « OK, c'est normal, je suis redevenue novice, je vais repasser par ces étapes », autant les autres qui nous entourent aussi de dire hey, « Cette personne-là, elle redevient novice, je vais lui laisser le temps de reprendre ses stades et de passer les phases là, qui s'accompagnent ». On est aussi allé questionner des anciens CPI CPA à savoir comment s'était passé leur arrivée dans notre établissement et ce qu'elles auraient souhaité savoir avant de commencer.
Au début, je trouvais ça quand même assez difficile parce que j'avais pas fait mon cours ici, j'avais fait mon cours dans une autre région. Donc ça a été beaucoup d'adaptation au début, mais ce qui m'a vraiment aidée, ça a été toutes mes collègues. Le fait d'avoir pu faire mon CPA tout à la même place, là, c'est-à-dire au 4A, 4C, à l'Hôtel Dieu. Mes collègues m'ont vraiment aidée au début là, pour mes apprentissages. En fait, c'est qu'à partir du moment qu'on réussit notre examen de l'ordre, on commence à voler. En fait, là, ils commencent à nous envoyer sur différents étages. Puis ça, c'est une des parties que j'ai trouvées les plus difficiles. C'est qu'on est encore nouveau comme infirmière auxiliaire. On est quand même en apprentissage. Là, c'est à ce moment-là qu'on se promène d'une unité à une autre sans se sentir à l'aise tant que ça parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est infirmière auxiliaire.
Oui, actuellement, les CPI et les CPA sont stabilisés sur leur unité de soins jusqu'à la complétion de leur examen professionnel. C'est normal de vivre du stress en voyant arriver le moment où on devient équipe volante puis qu'on peut être amené à aller travailler dans une autre unité de soins ou dans un autre secteur d'activité. Mais c'est aussi important dans notre cheminement professionnel de développer des stratégies d'adaptation puis d'explorer en nous nos ressources internes, mais aussi de connaître les ressources externes qui peuvent nous aider à vivre ces changements-là. La profession infirmière est vraiment riche en possibilités, puis la majorité des infirmières vont vivre plusieurs changements durant leur carrière. Ça peut être angoissant, mais il y a aussi des bénéfices qu'on peut en tirer. En faisant preuve d'ouverture, je peux découvrir des nouveaux milieux de pratique, et puis une nouvelle clientèle, élargir mes expériences professionnelles. L'important, c'est de nommer les situations qui nous font vivre du stress, parce qu'il y a des ressources pour nous aider à trouver des solutions. Il y a les conseillères en soins facilitatrices, les assistantes aux supérieurs immédiats, les tutrices qui peuvent aider sur l'unité dans la recherche de repères puis dans l'organisation du travail. Il y a les conseillères préceptrices qui peuvent explorer, entre autres, des stratégies de gestion du stress. Il y a les conseillères à l'organisation du travail, les chefs d'orientation et de développement qui peuvent regarder les possibilités d'orientation pour diminuer l'appréhension là, des situations imprévues.
Je rebondis sur ce que tu as dit aussi pour faire un lien avec les assistantes supérieures immédiates. J'en ai parlé dans mon expérience personnelle, mais l'assistante supérieure immédiate est vraiment le fort au sein de l'équipe de soins. Puis, elle est le fort aussi pour la relève ou les nouveaux qui arrivent sur les unités. Fait que c'est important pour les nouvelles personnes de savoir que l'ASI, c'est la personne référence pour te guider dans le travail quotidien. Puis, c'est important pour les ASI aussi de comprendre c'est quoi leur rôle au sein de la relève. Bien, leur rôle, ça fait partie de leur quotidien de les accueillir, de leur dire bonjour, de leur montrer à qui ils peuvent se référer, c'est qui les références sur l'unité, puis de les guider. Donc, si les ASI ont plus de questions par rapport à ça, bien, je les invite à consulter la section sur le rôle ASI dans l'intranet.
On avait tous aussi des appréhensions en débutant notre carrière. Moi, personnellement, j'avais peur de faire une erreur préjudiciable et de perdre mon permis d'exercice avant même de l'avoir eu. Là. C'est une peur un petit peu exagérée, mais tout de même, elle était là. Puis je suis sûre que je ne suis pas la
très
seule.
Valide comme sentiment.
Donc, on a questionné aussi des personnes externes à savoir si eux aussi avaient des appréhensions.
Bien, mes attentes par rapport à mon arrivée sur un nouveau département, c'est d'avoir du feedback quand même souvent là, de ma préceptrice ou précepteur par rapport à ma performance là, ou comment je donne mes soins et tout ça.
Bien, comme je le nommais plus tôt, la rétroaction, c'est une action déterminante pour aider la relève à se sentir bien. Quand tu termines la journée en discutant 3 minutes avec la tutrice pour connaître tes bons coups et les choses que tu as continué d'améliorer, ben, tu ne passes pas ta soirée à repasser ta journée en boucle dans ta tête en te demandant si tu es correct, si tu es sur la bonne voie, en doutant de ce que tu as fait. Tu peux revenir le lendemain, frais et dispo, prêt à continuer ton développement avec pas mal plus d'assurance. Il y a la fiche de rétroaction écrite qui est à compléter une fois par semaine, puis il faut la compléter avec la personne qu'on oriente pour qu'elle prenne connaissance de ses points forts et de ses points à améliorer. Mais il y a aussi tous les moments en cours de journée puis en fin de journée qui sont importants puis qui permettent de faire une rétroaction verbale, de faire le point puis aussi de discuter du plan de match pour la suite de l'orientation. Pour les tuteurs, il y a des formations qui existent pour permettre de développer les aptitudes de tuteur. En ce qui a trait à la rétroaction, qui peut être difficile à dire, bien, il y a le gestionnaire sur l'unité puis l'ASI qui peuvent apporter du soutien lorsqu'il y a une rétroaction plus difficile à donner à une personne vivant des enjeux importants ou ayant une courbe de développement atypique. On encourage aussi les recrues à demander de la rétroaction si nécessaire. Parfois, les journées passent vraiment vite, puis le tuteur pourrait oublier de prendre le temps là, de faire cet échange-là.
Entends aussi que relève, il faut prendre le temps de la recevoir aussi, cette rétroaction-là, de se questionner. OK, il y a tel élément qui s'est passé dans ma journée. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai posé tel ou tel acte? Et comment je vais faire la prochaine fois pour m'améliorer? Donc, je pense que c'est vraiment important autant de bien donner une rétroaction positive et constructive qu'autant bien recevoir cette rétroaction-là.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Stacy. La rétroaction, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas juste la responsabilité du tuteur de la donner. Ça peut être la responsabilité de la relève aussi d'aller la demander. Puis souvent, on se fait dire, quand on demande la rétroaction, « Ah, bien, ça va bien. » On peut essayer d'être plus spécifique. Bien, ça va bien, c'est super. Pourrais-tu me donner quelque chose, par contre, que je pourrais améliorer? Ce serait quoi mon défi pour demain? Des choses comme ça. Fait que ça fait en sorte que la rétroaction est plus spécifique là, puis nous aide à nous développer plus que « Ah, bien, ça va bien. » Puis je m'en vais chez nous avec mon petit bonhomme puis je me dis que ça va bien. Mais il y a peut-être malgré que ça aille bien, il y a peut-être des choses spécifiques que je peux venir travailler puis qu'on peut discuter ensemble là, pour le développement. Autant le mien comme relève, autant que de mon tuteur dans son rôle de tuteur aussi.
Je suis vraiment d'accord. En début de profession, on a tout à apprendre.
Oui.
Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose quelque part qu'on peut améliorer puis sur lequel on peut travailler.
On a questionné aussi la future relève à savoir qu'est-ce qu'elle aimerait savoir avant de commencer. Il y a toutes des choses qu'on aimerait savoir. Donc, allons voir qu'est-ce qu'ils en pensent.
Si j'ai de la préparation à faire, là, c'est sûr que moi, je m'en vais pas dans une spécialité, mais c'est quoi les pathologies qui reviennent le plus? C'est quoi le niveau d'âge qui est le plus? Est-ce que c'est plus de la gériatrie, plus des adultes dans la quarantaine? Fait que de plus savoir qu'est-ce que je retrouve sur mon milieu pour plus pouvoir me préparer.
Bien, en fait, il y a déjà des activités pédagogiques qui sont mises en place là, pour accueillir la relève. Donc, entre autres, on appelle ça les AFE, donc les activités de formation à l'embauche, qui sont plus générales, plus spécifiques. Le fait que quand on arrive comme employé au CIUSSS de l'Estrichu, qu'est-ce qu'on doit savoir? On a aussi des AFE plus cliniques où ce qu'on couvre les grands thèmes de la courte et de la longue durée. Je parle entre autres du délirium, des mesures de contrôle, de la dépression respiratoire. Ensuite, chaque unité a son programme d'accueil. Donc, si tu vas à l'urgence, bien, tu vas avoir ton programme d'accueil spécifique à l'urgence. Si tu vas aux soins intensifs, c'est plus spécifique aux soins intensifs avec des formations spécifiques. Et si tu vas en longue durée, bien, il va y avoir les gens de la longue durée qui vont t'accueillir aussi pour t'informer, te donner les ressources nécessaires pour commencer ton travail là, dans le contexte de travail que tu vas avoir.
Je pense aussi que peu importe dans quel secteur tu vas, tu as toujours la possibilité d'appeler le gestionnaire sur l'unité pour demander bien, qu'est-ce qui se passe de beau dans votre secteur. Puis aussi, bien, par exemple, des fois, je me fais appeler là, comme conseillère à l'organisation du travail. Puis ça va me faire plaisir, je les connais, tous les secteurs, de partager avec vous là, qu'est-ce qu'on peut peut-être approfondir comme connaissance avant de commencer.
Oui, c'est intéressant, Sophie, de mettre de l'emphase sur l'autonomie aussi de la relève, sur comment est-ce qu'elle peut se préparer. Certainement qu'au niveau de l'établissement puis des unités, on va vous donner de la théorie, mais il y a des choses que vous pouvez aller voir de vous-même. Vous avez des notes de vos cours, vous pouvez aller lire des sites Internet, vous avez vos manuels. Si vous savez que vous allez sur une unité de chirurgie, bien, rouvrez vos cours de chirurgie puis regardez les grands principes, parce que peu importe sur quelle unité de chirurgie vous allez aller, bien, les grands principes de chirurgie s'appliquent. Fait que c'est vraiment super intéressant.
Il ne faut pas non plus trop s'en mettre sur les épaules parce que c'est quand même des semaines qui sont exigeantes. Là. Beaucoup de nouveautés en même temps. Et des fois, une simple nouveauté, moi, je sais que j'allais dans un centre hospitalier que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'étais conseillère en soins, ça m'est arrivé que j'avais des ressources qui m'appelaient parce qu'ils voulaient venir visiter. C'est où mon casier? C'est où je mets mon lunch? C'est toutes des informations que c'est de la nouveauté que je pourrais m'enlever pour ma première journée. Donc ça peut nous faire plaisir aussi en tant que conseillère en soins d'offrir ça ou le gestionnaire. Est-ce que je peux venir faire un petit tour avant de me présenter pour ma première journée, savoir où déposer mon manteau? Est-ce que les uniformes sont fournis? C'est toutes des choses qu'on ne le sait pas si on ne le sait pas, tu sais. Fait que ça peut faire du bien aussi de le savoir à l'avance. Nous déstresser, on arrive mieux préparé à notre première journée.
On a aussi demandé à une ancienne CPI, avec du recul, ce qu'elle aurait aimé savoir avant d'arriver.
C'est normal d'être autant stressée en commençant. C'est une grosse étape, un gros changement. Puis là, ben, tout d'un coup, c'est toi qui deviens en charge de tes patients. Moi, ça m'avait bien stressée parce qu'en stage, puis comme externe, ben, t'as l'infirmière responsable, puis toi, tu l'accompagnes là-dedans. Mais là, oui, t'as toujours ton équipe qui est là, mais c'est toi qu'il faut qu'ils reconnaissent les signes. Si, mettons, ils commencent à moins bien aller, puis c'est toi qu'il faut qu'ils lèvent le flag.
C'est sûr que c'est stressant quand on n'a jamais eu cette responsabilité-là. On l'a toujours eu parce qu'en stage, on l'a quand même. On est imputable de nos actions, même en tant que CP externe ou stagiaire. Mais là, c'est très différent parce que c'est toi qui as à ta charge cet usager-là.
Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Stacy. C'est normal d'être stressé. Puis justement, on a une équipe qui nous entoure pour nous soutenir là-dedans. Je renforce ce qu'on a parlé tantôt, de ne pas hésiter à venir chercher l'aide de l'ASI ou de nos anciens tuteurs ou des gens qu'on a été capable d'identifier dans le milieu comme des ressources pertinentes là, pour nous soutenir.
Avec nos pairs aussi, les autres membres de la relève infirmière, des fois, ça peut aider à relativiser et à normaliser ce qu'on ressent. Même si on n'est pas nécessairement dans les mêmes secteurs, ils vivent les mêmes enjeux.
Puis les conseillères en soins aussi qui offrent le service là, jusqu'à 2 ans de pratique.
Oui, les préceptrices, tout à fait. On a aussi été interroger un CPI pour savoir qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir comme outil avec lui là, quand il a commencé comme CPI.
Initialement, lorsqu'on est CPI, on est toujours orienté sur un terrain. Ça peut être n'importe quel infirmier qui nous oriente. Fait qu'il y a beaucoup de diversité à ce niveau-là. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est, là, sauf qu'on en a parlé, j'ai le terme exact, c'est d'avoir une tuteur ou une tutrice. Un infirmier, en fait, là, ou une infirmière qui a une pratique presque exemplaire. On sait qu'avoir une pratique exemplaire, c'est très difficile. Parfaite, en fait. Mais de pouvoir suivre, mettons, juste d'avoir 2 journées, tu sais, avec cette personne-là qui peut me guider, qui peut m'aider avec ses pratiques, ses façons de s'organiser. organisée pour être la plus efficace, la manière qu'elle complète ses documents, ses Cardex, ses PTI. Ça, ça a été quelque chose. La manière qu'elle fait ses techniques, c'est par exemple au niveau d'où qu'on, je me situe en ce moment, on a beaucoup de trachéo, tu sais, c'est souvent on a toute peur, mais la tuteur tutrice peut venir démystifier certains mythes puis certains, certaines techniques pour dire, regarde, c'est pas si pire que ça. Et vraiment avoir un tuteur ou une tutrice, là, sur l'étage, avoir deux jours avec elle ou à savoir qu'on peut se référer aussi à elle, comme premier instant, avant même d'aller à la concierge en soi un petit peu plus haut, mais tu sais, on peut avoir plus de proximité, là, puis c'est, ça serait vraiment été quelque chose que j'aurais aimé avoir.
Il est important que l'arrivée soit planifiée puis que la recrue soit attendue sur son unité, que le tuteur ou la tutrice soit identifié, avisé, outillé pour accompagner puis orienté. En lien avec la réalité du milieu de la santé, par exemple les horaires particuliers, les vacances, la relève va être accompagnée par un bassin de 1, 2, 3 tuteurs. Mais c'est une belle opportunité pour découvrir différentes façons de faire, différentes approches de la profession. Par la suite, il va être possible pour la recrue devenue infirmière ou infirmière auxiliaire de choisir sa propre couleur professionnelle en allant chercher les façons de faire auxquelles elle s'identifie puis qui font du sens pour elle. Mais il faut bien sûr que le tout soit compatible avec une pratique exemplaire et sécuritaire. Il est possible de discuter des différences qu'on observe avec ce qu'on a appris, mais tout est dans l'approche utilisée pour le dire. Il y a le phénomène du choc de la réalité qui pourrait survenir. On apprend des façons de faire à l'école. Parfois, la relève est confrontée à une réalité différente, que ce soit par rapport à des façons de faire ou à l'idée qu'on s'était fait de la profession. Par exemple, au début, tout va vite. On dirait qu'on n'arrive pas à avoir l'approche humaine, à mettre en place les situations de relations d'aide à la hauteur de l'image qu'on s'était fait de la profession. Mais avec le temps, tu vas te sentir plus à l'aise dans tes interventions, tes évaluations, puis dans la gestion des imprévus, tu vas être plus organisé, puis tu vas trouver graduellement l'endroit où tu te sens sur ton X.
On a aussi demandé à des anciennes CPI, CPIA, qui les a aidées à leur arrivée comme nouvelles ressources.
Ce qui m'a aidée, ça a été que vu que j'ai commencé en juin, il y a une professeure du 24 juin qui est venue me voir directement sur l'unité au 4A4C. Elle m'a vraiment beaucoup aidée aussi parce que ça me faisait une ressource de plus. À part mes collègues, j'avais cette personne-là qui est venue me voir directement là, à l'étage. Donc ça, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis sans même que je le demande aussi, il y a Marie-Pierre Labbé, une conseillère en soins là, du volet proceptorat, qui m'a contactée. Elle aussi, ça a été une ressource qui m'a vraiment beaucoup aidée en FaceTime, là, plus comme à distance, pour parler là, de comment que je vivais ça. Aussi, là, ça a été comme deux bonnes ressources pour moi en plus de mes collègues.
Ce dont la CPIA nous parle, ça s'appelle une infirmière auxiliaire soutien estival. On a aussi des infirmières soutien estival. Ce sont majoritairement des professeurs du 24 juin, du cégep ou de l'université qui viennent nous donner un coup de main pendant l'été pour vous soutenir la relève directement sur les unités de soins en vous accompagnant là, pendant peut-être une ou deux heures ou trois heures, peu importe, selon vos besoins. Donc, soyez pas surpris là, si vous voyez vos professeurs débarquer sur l'unité cet été. Ils sont pas là pour vous évaluer, ils sont vraiment là pour vous aider, répondre à vos questions, puis vous faire une rétroaction constructive pour vous permettre de vous développer.
On a aussi un ancien CP qui voulait soulever l'importance que l'équipe a eue lors de son arrivée.
L'équipe a été très, très ouverte, c'est toujours prêt à me soutenir. Autant au niveau externe, t'sais, on m'amenait voir des techniques, on essayait de m'en faire faire le plus possible. Il y avait beaucoup de confiance en moi. Ce qui m'a marqué, c'est de prendre mes premiers patients toute seule. Puis des fois, de certaines situations d'urgence, ça peut être un peu plus, débousselant. Mais t'sais, grâce à une équipe que j'ai eue, je pense que c'est ce qui m'a plus marqué. J'ai été soutenu, puis j'ai été capable de prendre du galon assez rapidement.
Ce que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est que dans l'accueil de la relève ou de tout nouvel employé dans notre environnement de travail, les petits gestes de bienveillance font toute la différence. Il ne faut pas minimiser l'impact positif de vos actions puis de vos gestes sur la personne qui arrive et sur son sentiment d'être appréciée. Vous êtes une personne déterminante dans le parcours professionnel de la relève. Saluer la personne, se présenter, offrir son aide de façon spontanée, souhaiter la bienvenue avec un petit mot sur le tableau dans la salle de pause. Comme équipe, on peut l'inclure dans les discussions, l'encourager dans son quotidien. Ça peut aussi aller jusqu'à s'investir comme tuteur ou tutrice auprès de la relève en se développant dans un autre aspect de notre pratique professionnelle. On peut apprendre beaucoup aussi de la relève.
J'aimerais remercier tous les tuteurs, tutrices, toutes les personnes qui gravitent de près ou de loin autour de notre relève infirmière. Vous êtes tellement important. Et si on ne vous l'a pas dit encore cette année, ben moi, je vous le dis, merci.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Stacy. De mon côté, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toute la relève en soins infirmiers qui arrive au SUS de l'Estrichu. Bienvenue dans cette grande famille.
Un énorme merci à toi, Sophie, d'être venue nous voir aujourd'hui. Donc, Sophie Martin, conseillère en soins infirmiers à l'Organisation du travail et des soins infirmiers.
Ça a été un réel plaisir. Merci à vous.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Hey Stacy, on peut être fier parce qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait en oncologie dans nos établissements.
Oui, en effet, la recherche occupe une place importante en oncologie car les avancées dans ce domaine sont essentielles pour améliorer les options de traitement, la qualité de vie des usagers et, espérons-le, trouver éventuellement des traitements plus efficaces, voire des remèdes contre le cancer.
C'est vraiment formidable d'entendre parler du progrès dans le domaine de l'oncologie, surtout qu'en avril dernier, il y a eu le début d'un protocole de phase 1 au CHU-Fleurimont.
C'est quoi une phase 1, Anne-Laurence?
La phase 1, en fait, c'est la première étape du développement d'un nouveau traitement ou d'un médicament. Son principal objectif, c'est d'évaluer la sécurité et la tolérance du traitement chez les sujets humains en déterminant les effets indésirables du traitement puis la dose maximale tolérée. Ce qui est intéressant à souligner, c'est vraiment la collaboration entre l'équipe de soins en oncologie et l'équipe de recherche qui a permis d'y arriver en combinant l'expertise du clinique et la rigueur scientifique pour s'assurer du succès du projet de recherche. Ces deux équipes ont vraiment allié leurs forces et leurs savoirs afin de rendre possible le déroulement du projet de recherche. C'est un travail d'équipe impressionnant et inspirant.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmière, de décider de faire un cathétérisme vésical pour procéder à une culture ou analyse d'urine? La réponse est oui. En vertu des activités réservées infirmières, soit appliquer des techniques invasives et effectuer des examens et des diagnostics invasifs selon une ordonnance, l'ordonnance médicale de culture et analyse d'urine permettra à l'infirmière, dans le cas où il serait impossible d'avoir un échantillon adéquat, de décider de faire un cathétérisme vésical sans ordonnance, en vue d'effectuer le prélèvement prescrit. Prenons par exemple le prélèvement sanguin. À moins d'indication contraire, l'infirmière décidera si elle prélèvera le sang par ponction veineuse ou via un cathéter artériel ou veineux central, selon la situation, sans ordonnance médicale, autre que celle du prélèvement.
Donc, c'est ce qui conclut l'épisode 1, Annie-Laurence.
Oui, et dans le prochain épisode, on va parler des activités réservées et des champs d'exercice des différents professionnels en soins. Ça va être une discussion super intéressante où on va pouvoir démystifier chacun des activités réservées puis la nuance entre les champs d'exercice puis tout ce qui est flou entre les deux.
Merci de nous écouter. Suivez-nous sur toutes les bonnes plateformes et parlez de nous.
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrie-CHU, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.